Merci d'être présent à cette table ronde des rencontres scientifiques. Voilà ce que j'ai à vous dire maintenant. Ça fait 9 années que Utopial tourne autour du pot. Pierre Bordage, vous devriez écouter, Utopial tourne autour du pot depuis 9 ans. Parce que quand même, il n'y a pas eu d'enquête sérieuse organisée sur où est ce monde meilleur. Quelles sont les voies pour l'atteindre et quelle est sa nature depuis que ce festival existe? Alors, cette question se pose depuis l'origine. Et quand je dis depuis l'origine, ce n'est pas seulement depuis l'origine d'Utopial, c'est depuis l'origine de l'humanité, on va le voir. Le monde meilleur, donc, est l'enquête. Nous avons décidé de la mener pour le 10e anniversaire d'Utopial en se posant la question de savoir si d'aventure on n'aurait pas la réponse en nous, si la réponse ne serait pas liée à un effort collectif ou à un effort solidaire, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Est-ce que le progrès scientifique et technique peut nous y aider? Enfin bon, est-ce que les modèles économiques, patati patala? Voilà, quelle est notre recherche? Et chapitre 1, nous allons mener cette enquête de l'intérieur de nous-mêmes, et nous avons convoqué 4 spécialistes de l'intériorité humaine. Rachel Bauchet, qui est psychiatre, qui est chef du service de psychiatrie à l'hôpital de Nantes, qui n'est pas la seule scientifique sur ce plateau, puisque à sa gauche, donc à la droite de votre dispositif, il y a Francis Berthelot, qui lui est polytechnicien, qui est docteur en biologie moléculaire, qui est chercheur...
Il y a un certain nombre de vies antérieures.
Oui, d'accord, mais les vies antérieures vont compter, on va le voir aussi. Bref, il est quand même le scientifique de l'État, puisqu'il est aussi membre du CNRS.
Et maintenant, je suis retraité.
Vous êtes retraité?
Oui, depuis 2 ans.
Ah ben, il cache bien son jeu encore, décidément. Et donc, Francis Berthelot, il a été chercheur, membre du CNRS et du Centre de recherche sur les arts et le langage, après avoir été chercheur en biologie moléculaire. Mais peut-être que c'est à peu près la même chose. On va voir ça. Et il a sorti, vous avez sorti récemment, un livre qui s'intitule « Du rêve au roman ». Et on va voir en quoi votre expertise, là, va nous être très précieuse. Alors, Pierre Bordage, on ne le présente pas. Il est président d'Utopial. Il est un auteur prolifique. Pierre Bordage, sa dernière actualité, c'est le 21 septembre, le prix des lecteurs... du livre de poche pour Porteur d'âme. Tiens, Porteur d'âme, bah, c'est aussi peut-être ce qui va nous motiver. Et puis enfin, à la toute extrême droite du dispositif, Vincent Ravalec. Alors lui, il est écrivain, il est cinéaste, il est scénariste, il est parolier. Il a commencé, puisqu'il y a des vies antérieures, comme vient de l'évoquer Francis Berthelot, comme apprenti menuisier. Peut-être que c'est le début de sa quête du monde meilleur. Alors, on a tous en nous quelque chose de Tennessee, puisque vous aimez les purs moments de rock'n'roll, n'est-ce pas? Eh bien, on a tous en nous l'interrogation sur ce monde intérieur. Il suffit de chercher dans nos locutions habituelles, l'âge d'or, c'est le Pérou, l'Eldorado, etc. On a toute une série déjà de pistes et elles sont étranges. Alors moi, ce que je vais vous poser comme question à vous tous qui êtes des spécialistes de l'intériorité humaine, comme je l'ai dit, alors sauf à le dénier, qu'est-ce qu'on a en nous, non pas de Tennessee, mais qui nous conduit à imaginer, au moins à imaginer, qu'un meilleur des mondes puisse exister? Est-ce que la psychiatre a déjà une réponse? Est-ce que d'aventure ce ne serait pas une espèce de trouble mental que d'imaginer ça? Madame, prenez donc le micro.
Bien, bonjour à tous et à toutes. Alors déjà, merci. Merci à Pierre Bordage. Merci aux Utopiales de faire qu'un psychiatre est à cette table ronde. Mais la première question que je me suis posée, c'est qu'est-ce que je fais là? Sinon, mon intérêt pour la science-fiction. Parce que est-ce qu'un psychiatre doit répondre à cette question-là au niveau du meilleur? C'est-à-dire que la question, est-ce qu'il y a un monde meilleur en nous? Moi, a priori, je vois les gens qui sont plutôt en difficulté
oui,
avec eux-mêmes.
C'est précisément les malades que vous voyez.
A priori, oui, les gens qui sont en bonne santé, ils ne viennent pas me voir.
Mais là, peut-être que la première idée du meilleur, elle est en vous-même, puisque vous avez peut-être adopté ce métier pour améliorer quelque chose, donc rendre quelque chose meilleur, déjà.
Oui. Moi, vous savez, déjà, j'aurais envie de commencer par quelque chose qui est un peu décalé par rapport probablement à ce que vous attendez de moi. C'est que je reviens d'un voyage de Géorgie, et les Géorgiens, ils sont très poètes, Je veux dire, quelquefois, il faut aussi chercher les réponses, non seulement dans la science, mais dans la poésie. Et il y a une phrase d'un poète géorgien, je leur ai promis d'ailleurs de le dire ici aux Utopiales, c'est « Un homme sans amis est son pire ennemi ». C'est de Chota Roustavéli. Je le dis comme ça. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut aussi savoir chercher le meilleur dans la relation qu'on peut avoir avec les autres. La première relation, c'est bien sûr la relation avec sa mère, avec, disons, au sens large, hein, avec ses parents, c'est-à-dire comment on se construit à travers cette identification successive que le milieu familial peut proposer. Et donc, je veux dire, c'est aussi peut-être des choses aussi simples que ça, le monde meilleur, c'est le monde qui est autour de nous, le monde qui nous est proposé, sans aller forcément chercher des choses très loin. Alors, aujourd'hui, on est dans un festival de science-fiction. Je dirais, ça évoque aussi beaucoup le recours aux nouvelles technologies. Alors, bien sûr, ce n'est pas tout à fait la même chose hein, par rapport aux nouvelles technologies. Parce que les nouvelles technologies, c'est en plus, en même temps, avoir recours à un monde réel et à un monde virtuel. Mais on voit bien combien ces espaces différents, que ce soit la science-fiction, que ce soit la virtualité liée au numérique, peut nous épanouir, peut nous aider, en tout cas, à prendre du plaisir. Donc, est-ce que ce monde meilleur est en nous? Je crois que ce monde, il peut nous être proposé à travers la relation qu'on a avec les autres. Et il ne faut pas s'en priver, c'est pour ça que je me suis permis de citer ce poète géorgien, c'est-à-dire aujourd'hui, beaucoup, je dirais beaucoup, vont chercher sur la scène médicale, avec le recours soit à un médecin, soit même à un psychiatre, des réponses qu'ils pourraient trouver au niveau d'une scène familiale ou une scène amicale. Et moi, quelquefois, je dis à certaines personnes que je vois en consultation, mais vous savez, ce n'est pas de mon ressort. C'est pas du ressort de la pathologie. Le bonheur n'est pas du ressort du psychiatre. La souffrance, oui. Le bonheur, il est de votre ressort. C'est-à-dire aussi, il faut se retourner sur soi, sur sa vie, peut-être sur son destin. C'est sa capacité à assumer son destin.
Alors, la question centrale quand même, c'est est-ce que nous avons dans notre structure mentale, puisque c'est ça votre spécialité, la structure mentale, ce qui l'affecte, ce qui la fait déraper, est-ce que nous avons dans notre structure mentale quelque chose que vous avez identifié, que vous connaissez, que vous maîtrisez, et qui expliquerait que nous soyons toujours à la recherche d'un autre moment, d'un autre lieu et d'un autre état qui serait qualifié de monde meilleur, qu'on l'appelle l'âge d'or ou qu'on l'appelle le nirvana ou qu'on l'appelle le monde meilleur.
Écoutez, moi je dirais qu'aujourd'hui, on est toujours à la recherche de nouvelles limites. Je pense qu'il faut prendre ça dans le domaine actuel, qu'on pourrait qualifier, alors peut-être d'autres le diront, de société postmoderne, où on est à la recherche de limites qu'on repousse plus loin, de limites et puis aussi d'un plaisir qui pourrait se conjuguer en termes de sensations fortes, en termes d'expérimentations nouvelles. Et donc je crois que ces nouvelles limites, ces nouvelles sensations, on les cherche en permanence parce que c'est aussi à travers ça la quête de soi, c'est-à-dire savoir jusqu'où on peut aller, de sa connaissance de soi à travers la connaissance de l'autre. Et cette recherche-là, cette quête effrénée finalement de sensations, c'est une quête effrénée de soi-même. C'est-à-dire, vous savez, c'est ce qu'on voit quand on se regarde dans le miroir. C'est-à-dire, est-ce que je vois dans le miroir moi ou est-ce que je suis capable de voir quelqu'un de meilleur? Et donc, j'essaye de pousser plus loin mes capacités pour finalement être quelqu'un encore de mieux. Et ça, c'est la structure normale.
Bien. Alors, Francis Berthelot, on a entendu un certain nombre de choses, mais quelle est votre réponse à vous d'abord? Qu'est-ce qu'on a en nous? Vous êtes un spécialiste quand même de l'intériorité humaine. Un écrivain s'observe, comprend les mécanismes dont il est le siège et puis voit de l'humain au travers de sa propre expérimentation, de sa propre création. Et donc, on le voit très bien, ça, dans votre ouvrage, du rêve au roman. Alors, qu'est-ce qu'on a en nous qui soit susceptible de générer cette quête de quelque chose qui peut-être n'existe pas et en tous les cas qui est difficile d'atteindre?
Ce qu'on a en nous, je ne sais pas. Moi, je suis un écrivain qui travaille effectivement sur l'intériorité, sur l'inconscient. J'ai travaillé avec un certain nombre de psys dans ma vie. J'ai fait différentes thérapies qui ont eu des répercussions sur mon écriture. Et quand je regarde ce que j'ai écrit au travers de la question que vous posez, je me dis que mes romans sont la plupart du temps le récit d'une descente aux enfers dont on ne réchappe que par la création. Et la création me semble être la planche de salut de mon point de vue. C'est-à-dire que pour moi, dans ma vie, c'est ça qui m'a donné un sens. Et c'est pour ça, par exemple, que j'ai été scientifique d'abord et que j'ai cessé de l'être. C'est parce que dans les sciences, il me manquait une dimension créative qui mettait en jeu les émotions, l'inconscient, le rapport à l'autre, la spiritualité, la beauté. Tout ça me manquait cruellement dans la recherche scientifique. Donc je suis arrivé à un moment où je me suis dit, mais la recherche scientifique telle que je la pratique ne répond absolument à aucune question importante pour moi, donc j'arrête. C'est là que j'ai quitté la biologie moléculaire. Et entre-temps, j'avais commencé à écrire des romans. Et il était clair pour moi que la pratique de l'écriture était la seule chose salutaire pour moi. À telle enseigne que le signe qu'il fallait que je commence une nouvelle thérapie ou que je me mette sous antidépresseur, c'était le fait de ne plus arriver à créer. C'est-à-dire le moment où même l'écriture n'était plus possible, là, il fallait que j'aille chez le psy. Mais dès qu'on avait un petit peu relancé la machine, l'écriture repartait, bon, et puis on repartait dans une autre direction. Et c'est quelque chose que j'ai transmis à beaucoup de mes personnages, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui arrivent à s'en sortir par la création, soit musicale, soit plastique. Je travaille rarement sur l'écriture, mais le roman que j'écris en ce moment, qui est le neuvième et dernier de mon cycle, Le rêve du démiurge, a pour auteur un écrivain. Pour héros, un écrivain. C'est la première fois que je prends un écrivain comme personnage. Jusqu'à présent, j'ai toujours tourné autour du groupe.
C'est dangereux, ça, c'est dangereux.
Oui, mais c'est en même temps, c'est pas sans raison, c'est parce que c'est l'auteur des 8 précédents. Donc c'est une mise en abîme.
Et voilà.
C'est une mise en abîme. Mais d'habitude, je me sers soit du théâtre, soit de la musique, soit des arts plastiques, la sculpture, la peinture. C'est toujours par le biais de la création qu'on arrive, sinon à faire un monde meilleur, du moins à rendre son monde à soi meilleur.
Alors, finalement, la réponse que vous émettez pour vous, est-ce qu'elle n'est pas aussi valable pour tous? C'est-à-dire, au fond, quand on se rend compte que la vie est une descente aux enfers, il faut créer le monde meilleur pour essayer de se sauver et essayer de supporter ça en tous les cas. Est-ce que ce n'est pas ça le mécanisme?
Moi, il y a une chose que je m'interdis de faire, c'est de généraliser mon expérience aux autres.
Bien, chef.
Je ne le fais pas.
Je ne commencerai pas.
Je pense que chacun suit son chemin. Si vous voulez, je me méfie de toute forme de dogmatisme, de toute forme de prosélytisme. J'ai fait ma trajectoire et elle s'est construite comme ça et j'ai vécu ça. Et s'il y a des gens que ça inspire, tant mieux. Et je laisse à ceux qui ont une autre trajectoire toute liberté pour l'assumer.
Alors, quand je dis valable pour tous, ça ne veut pas dire que ça soit quelque chose qu'il faille imposer aux autres. C'est au fond, le mécanisme est le même pour tout le monde. C'est ça. Ce ressort-là est partagé par tous. Ce Tennessee que j'évoquais tout à l'heure pour Vincent Ravalet.
Je pense que tout le monde est créatif dans un domaine ou dans un autre. Et oui, l'épanouissement personnel passe par une création, ça je crois, oui. Alors, quelle création? C'est à chacun de trouver celle qui lui correspond. Ça peut être des choses extrêmement simples.
Pierre Bordage, alors, avec un micro, l'esquisse de votre réponse à vous, déjà, pour commencer.
Est-ce que le monde meilleur est en nous?
Non, mais c'est qu'est-ce que nous avons en nous qui explique le fait que nous l'imaginions à tout le moins, pour commencer?
C'est une très très vaste question où il faudrait convoquer plein de choses, la philosophie, la théologie.
Bien, convoquer. Vous êtes le président, vous pouvez convoquer tout le monde.
Je convoque tout le monde. Je me suis beaucoup interrogé sur ça, parce que il y a une phrase dans la Bible qui m'est restée en tête et qui continue de me hanter, c'est « et le Verbe s'est fait chair ». Ce qui veut dire que la création était d'abord du Verbe et ensuite elle s'est matérialisée. Donc est-ce que nous sommes, nous les auteurs, en train de de créer des mondes qui se matérialisent sous une forme, sous la forme de mots, et quelle est l'importance de ça. Puis après, je me suis dit, finalement, c'est l'histoire de la pensée. Alors, la pensée humaine est très importante, puisqu'on pense tous, mais il se trouve que nous sommes prisonniers d'un truc qui s'appelle l'espace-temps, et que souvent, notre pensée est elle-même prisonnière du temps, ce qui crée de la souffrance, ce qui fait que jamais des structures, que jamais on ne puisse accéder à une sorte de satisfaction par le changement des structures, puisque c'est déjà intérieur. Et la première chose à faire probablement, enfin à mon avis, et ça aussi ma trajectoire, je ne l'impose à personne surtout, c'est de se déconditionner de tout. Parce que à partir du moment où on pense par rapport à des conditionnements, je pense qu'on crée des nouvelles prisons mentales et desquelles on peut difficilement s'extraire. Quelqu'un qui est dans une prison mentale, à mon avis, il peut difficilement transformer sa société en un monde meilleur. Donc c'est déjà s'évader de sa prison mentale, de son système de pensée, pour essayer d'avoir une vision différente. Et là, probablement qu'on a un impact plus important sur l'amélioration des choses. Déjà vouloir améliorer, c'est-à-dire nier le réel, c'est déjà un échec. Ça veut dire que... Je suis un peu provocant, mais je fais exprès.
Non, mais il faut l'être, là.
C'est-à-dire qu'on est incapable de reconnaître ce qui est pour une éventuelle projection de ce qui devrait être. Et dans cet intervalle entre l'être et la projection, il y a un abîme dans lequel on sombre souvent, l'humanité sombre en permanence. Je veux dire, l'idéalisation des choses est probablement un des ennemis suprêmes de l'humanité, parce que justement, ça crée des distances et ça crée du temps. Et encore une fois, si le temps est la racine de la souffrance, enfin, puisqu'on est piégé dans cet espace-temps, la pensée aussi racine de la souffrance.
C'est peut-être plus que le temps, ou moins que le temps, la simple finitude de notre état. C'est le fait que dans ce temps, nous soyons terminés à un moment.
Voilà, prisonniers de l'espace-temps, oui. Et une grande partie des humains, depuis la nuit des temps, s'interroge sur comment la fin, le début, la fin, et comment gérer cette espèce de temps qui nous est imparti et limité. Et comment sortir de cela et essayer d'améliorer la condition humaine. Mais ça me paraît très difficile, dès qu'on se sent prisonnier dans le temps, de proposer quelque chose qui améliore vraiment. Et d'ailleurs, on voit bien, vous avez parlé de technologie, est-ce qu'on peut améliorer par les technologies, tout ça. Je pense que c'est carrément impossible. Enfin, c'est juste qu'on peut changer un peu les choses, on peut se donner un peu plus de confort, mais de là à avoir la racine du bonheur, je pense que c'est complètement illusoire.
Bon, alors on continue cette esquisse pour avoir un panorama. Vincent Ravalec, votre réponse à vous là-dessus.
Écoutez, moi, je m'associerai à mes deux confrères. Je pense que évidemment, l'imagination et le pouvoir de création, disons de retranscription du monde dont on est capable, est évidemment une piste intéressante. Alors après, par rapport à l'énoncé du débat, est-ce que la question c'est de savoir si l'homme a en lui les capacités d'un monde meilleur? Ou s'il est toujours à la recherche d'un monde meilleur, je ne comprends pas très bien en fait.
Force est de constater qu'il est à la recherche d'un monde meilleur.
Oui, il est à la recherche d'un monde meilleur, mais j'avais compris, est-ce que la question est, est-ce que l'homme a ontologiquement ou potentiellement les capacités en lui-même d'accéder à un état qui est en tout cas un état différent de l'état de souffrance et de malheur dans lequel il baigne pour la...
À partir du moment où il en ressent le besoin et où il le rêve, où il porte ce rêve-là, est-ce qu'il est capable de transformer ce rêve en réalité?
Alors, à cette question,
au fond, c'est la problématique de Bertrand.
Ma réponse est oui. Voilà. Je pense que oui, que l'homme a en lui, en tout cas, des choses. Alors, à mon avis, je pense que c'est ontologique. Je pense qu'il y a des sortes de systèmes qui sont gravés en nous, et que ces systèmes, en fait, on a le pouvoir de les activer ou de ne pas les activer selon le travail et la manière dont on habite son incarnation. En fait, c'est comme ça, en tout cas, que je le ressens. Et que le pouvoir créateur et réflexif qu'on a, qui a priori est ce qui nous différencie tout de même des autres espèces, enfin pour autant qu'on puisse le percevoir et le ressentir, et je pense que c'est une voie possible en tout cas d'une amélioration et de peut-être de pouvoir tendre vers un autre état et d'autres dimensions, les dimensions dont parlait Pierre par exemple à l'instant, et qui nous permettent d'accéder à des systèmes de représentation du monde dans lequel vraisemblablement il est possible d'évoluer, où on peut s'affranchir de ce qui peut être pesant ou source de souffrance ou en tout cas d'obstacle dans notre existence présente.
Alors, le médecin que vous êtes, Rachel Bauchet, vient entendre tout ça. Et au fond, quand on a entendu Francis Berthelot et puis Pierre Bordage, on a entendu quelque chose que je pourrais résumer de la sorte. Au fond, nous avons en nous la capacité ontalgique. Nous souffrons de telle ou telle chose, finalement la finitude, la descente aux enfers, et nous avons la capacité, par la création, par l'imagination, de cesser de souffrir. Vincent Ravalec lui va plus loin, c'est plus un ontalgique, c'est finalement une possibilité de maçon. C'est-à-dire qu'on peut, on va pouvoir, sur ces pierres, construire quelque chose. Alors, est-ce que le médecin penche plutôt pour le penchant pour le côté ontalgique ou pour le côté constructif?
Moi, je dirais, à entendre les autres intervenants de la table ronde, moi, je pensais plutôt, qu'est-ce qui nous empêche? C'est plutôt, qu'est-ce qui nous entraverait d'aller vers un monde meilleur ou de trouver un monde meilleur en soi? C'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire, plutôt posons la question à l'envers. C'est-à-dire, quels seraient les facteurs inhibiteurs? Et je dirais, pour faire simple, parce que je ne vais pas vous faire un cours de psychologie, mais en fait, il y a la construction de l'identité, construire soi, son image de soi-même, et puis la deuxième chose importante, c'est la construction du sens du réel. Et puis la troisième chose, c'est la construction de la sociabilité. C'est les trois aspects fondamentaux, c'est Freud qui les a évoqués, donc je me permets de le redire à ma place. Bon, de ma place. Et donc, on est sur ça. Aujourd'hui, on sait très bien que ce qui nous empêche de continuer à avancer, alors d'avancer vers un monde meilleur ou d'avancer vers d'autres capacités en soi, c'est des facteurs d'entrave. D'entrave liés soit à des éléments douloureux, des éléments de soi-même, il y a une souffrance liée à l'absence, liée au deuil, ou soit des facteurs d'environnement. Des facteurs d'environnement, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai cité le poète Shostakovitch, parce que l'environnement c'est la famille, mais c'est la société, c'est-à-dire ce qui peut aussi, dans notre chemin personnel, nous aider à continuer le parcours de soi-même à travers les autres. Les autres nous renvoient aussi quelque chose de soi qui nous permet de continuer à avancer. Comme, c'est-à-dire,
c'est ça pas peut tout à fait être... le point de vue de Sartre qui dit l'enfer, c'est les autres.
Oui, mais ça c'est lui qui le dit. Mais je crois que c'est toujours pareil. C'est l'enfer, mais c'est aussi la confrontation qui nous permet de démêler ce qu'il y a de bon et de mauvais. Alors par contre, quand j'ai entendu mon voisin évoquer tout à l'heure sa descente aux enfers, je dirais que ce qui nous permet aussi de dire à la recherche du monde meilleur en soi, c'est les capacités qu'on peut avoir en soi, à l'intérieur de soi, les facteurs de résistance, les facteurs de surpasser des éléments douloureux, des éléments traumatiques. Bon, alors, je dis le terme parce que tout le monde le connaît. Aujourd'hui, la résilience, c'est tellement évoqué régulièrement, c'est qu'en fait, on voit bien qu'on peut aller chercher à l'intérieur de soi des capacités de résistance interne, mais qui sont en rapport avec la construction de l'identité. C'est-à-dire, si mon voisin est remonté des enfers, c'est qu'il a pu, sa constitution de sa personnalité lui permet de remonter. C'est un peu comme on va sous l'eau, et ben on est capable de... On tape du pied sur la piscine et hop, on remonte. Et on a une bouffée d'oxygène. Et donc, on est capable de remonter et d'à nouveau, d'avoir un nouveau chemin. Alors, une dernière chose, je voudrais quand même insister, c'est-à-dire le fait que ce n'est pas la souffrance et la douleur qui peut seulement créer du génie ou créer quelque chose de l'ordre de l'imaginaire. C'est-à-dire qu'on peut aussi pouvoir créer sans forcément souffrir, sans forcément faire la descente des enfers. Je crois que c'est important parce que je crois qu'il ne faudrait pas tomber dans un cliché qui est forcément romantique, du fou créateur ou du créateur fou. forcément malade mental. Je crois qu'on a la capacité de créer, mais par contre, c'est ce que disait Pierre Bordage quand il donnait des règles. Il disait, par contre, on est enfermé dans des prisons. Alors, ce n'est pas seulement le temps, ça peut être l'espace qui enferme. Et c'est pour ça que tout à l'heure, moi, j'évoquais le monde numérique où, en fait, on peut trouver un autre espace, où on peut trouver d'autres temps, où on peut vivre plusieurs vies à la fois, qui nous permet aussi de développer ces capacités qu'on peut avoir en nous, ces capacités créatrices.
Alors, messieurs les écrivains, force est de constater que ce désir qu'il existe quelque part un monde meilleur, ça existe depuis les origines, et c'est au fond tout ce qui sous-tend l'ensemble des aventures humaines, depuis la littérature, avec l'origine, les mythes, les légendes, les contes, etc. C'est la science, les aventures scientifiques, c'est l'ensemble des découvertes, qu'elles soient techniques ou qu'elles soient tout simplement géographiques, etc., archéologiques. Bref, toute l'aventure humaine est sous-tendue par ce besoin-là. De retrouver finalement les origines de l'innocence, les origines de la justice, les origines de la prospérité, les origines du bonheur. L'âge d'or, c'est ça.
L'histoire de notre histoire démontre le contraire.
Bien, et bien voilà.
D'essayer de faire la guerre, de conquérir l'autre. Enfin,
pour s'approprier le meilleur des mondes.
Alors, là, c'est une bonne question. Si vous pensez que le meilleur des mondes, on peut se l'approprier de cette façon.
Je pense à rien du tout. Moi, je provoque aussi comme Pierre.
C'est difficile de nommer ça le meilleur des mondes. Enfin, je suis pas tout à fait d'accord avec vous quand vous dites que c'est ce qui sous-tend la pulsion de vie humaine. Pulsion de vie humaine, au contraire, me semble imprégnée d'énormément de choses qui ne sont pas forcément de l'ordre, en tout cas pour ce que moi j'imagine être le meilleur des mondes possible. Et je pense que le travail de l'homme est justement d'arriver à faire le tri dans ses pulsions premières, d'arriver à les échafauder autrement. Et je pense que notre pouvoir de création, justement, est ce qui va nous permettre cette opération et partant de ça, arriver à échafauder autre chose et à créer autre chose.
Votre réaction, je vous en prie.
Oui, moi je pense qu'il faut... je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Vincent. Moi je pense qu'il faut, fondamentalement distinguer le niveau individuel et le niveau collectif. Ce que j'ai dit, c'est vraiment mon parcours à moi. Et je pense que dans les conditions de la société où j'ai grandi, vécu, etc., étant ce que je suis génétiquement, disons, je suis jusqu'à présent arrivé à faire que ça aille globalement de mieux en mieux. Mais je suis tout à fait conscient qu'il faudrait pas grand-chose pour que ça s'effondre. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, collectivement, alors là, je ne crois pas du tout que l'humanité fasse le moindre progrès. Il suffit de relire Les Misérables, écrit au XIXe siècle, et on voit que Victor Hugo, avec un raisonnement parfaitement sain, une analyse sociale, etc., présente l'avenir, ce qu'il va y avoir au XXe siècle, comme forcément merveilleux. Et quand on lit ça, on a envie de lui dire « Mais mon pauvre vieux, on aurait voulu t'y voir au XXe siècle, ça a été le pire de tous. » Alors, je ne crois pas que l'humanité se donne beaucoup de mal pour collectivement créer un monde meilleur. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un certain nombre de gens qui sont au pouvoir et qui se donnent les moyens de créer un monde meilleur pour eux, en se foutant complètement du fait qu'il crée un monde pire pour les autres. Et ça, c'est quand même un problème constitutif de l'humanité. Ça a toujours fonctionné comme ça. Et ça continue. On en a des exemples.
C'est-à-dire que ces gens-là ne sont pas le siège des grandes capacités et possibilités que vous peignez les uns les autres pour vous-même.
Ah non, pas du tout.
Un peu plus large.
Ah non, pas du tout. Ils n'en ont rien à battre. Ce qui les intéresse, c'est leur jouissance à eux et celle de leurs proches et de leur mafia ou de leur... Et ils écraseront tout ce qui dépasse.
Tous ceux qui viendront se
tout ce qui viendront,
mettre
tout ce qui, ça n'existe pas.
Pierre.
C'est ce que je disais tout à l'heure. Ça marche. C'est qu'il est impossible de créer des mondes meilleurs par le système dans lequel on le vit. Ça m'inspire quelque chose qu'a dit Francis. Les gens qui nous gouvernent, qui amassent des richesses, qui ont fait du matérialisme ou de la possession leur grand objectif, sont très malheureux. Ils sont très malheureux. Et ils sont d'autant plus malheureux qu'ils sont riches. Regardez le nombre de dépressions chez les riches, ça veut dire que le matérialisme n'est sûrement pas la réponse. L'environnement n'est sûrement pas la réponse. Donc où est la réponse? Quelle est la racine du problème? C'est vraiment ça la question qui est posée. Et encore une fois, je reviens à notre système de pensée. Je pense qu'il faut réfléchir sur notre système de pensée, sur notre système de vivre ensemble, qui repose souvent sur... Tu as parlé de dogmatisme tout à l'heure, qui repose souvent sur du dogmatisme, c'est-à-dire des commandements. Alors, les commandements oppriment considérablement l'individu et empêchent finalement de sortir des systèmes de pensée pour avoir sa propre vision des choses, parce que je pense qu'on est tous différents, si on a tous une note de musique différente, on ne représente pas tout à fait, tout à l'heure, Georges, on représente pas tout à fait personne ne représente la même chose, et c'est trouver sa propre voix qui est à nul autre pareil et qui puisse apporter réellement quelque chose à la collectivité. Mais quand on part de la collectivité, qu'on rassemble tout le monde, tous les individus dans une même collectivité, ça va forcément à la catastrophe, puisque vous définissez des frontières, des limites, des oppositions, des problèmes de toutes sortes. Et je pense que c'est justement... je suis d'autant plus d'accord avec Francis, c'est que le collectif ne résoudra jamais rien. C'est absolument impossible. Donc c'est à chacun de se libérer de ces conditionnements divers et variés qu'on nous impose souvent pour retrouver une véritable liberté intérieure.
Alors nous, le collectif ne résoudra jamais rien, l'individuel pas plus.
L'individuel peut s'en sortir.
Mais pour lui-même.
Pour lui-même, oui.
Non, mais quand il s'en sort pour lui-même,
en essayant de respecter les autres.
Quand il s'en sort pour lui-même, l'individu, il apporte forcément une harmonie
il
supérieure
rayonne,
et
il
tout le monde en profite.
Vous vouliez ajouter quelque chose ?
Non, pas du tout. J'ai écouté mes collègues avec beaucoup d'intérêt. Rapport à cette notion du collectif, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Pierre, bien que ce soumet, puisqu'on est au Festival Utopia. Moi quand j'étais adolescent, je lisais beaucoup de trucs de SF et tout ça, et j'avais tout de même ces idées qu'on pouvait, par exemple, tous se mettre à penser... disons non pas le même monde parce que ce serait d'une part triste et c'est pas forcément ça le but, mais disons des espèces de points de référence qui fait que par une espèce de sorte de, je sais pas, de méditation collective ou de rêve collectif, en fait on aurait créé une sorte de vortex qui finirait par rejaillir sur la société. Et je trouve qu'aujourd'hui on est assez faible là-dessus, c'est-à-dire que les œuvres qui sont proposées globalement, si vous regardez, sont tout de même assez morbides, très entaché de choses assez noires, et on n'a pas trouvé ce truc. Moi, je suis un peu baba cool dans le, comment dire, de par ma culture. On n'a pas trouvé ces espèces de points de rassemblement qui fait qu'on serait vraiment peace and love, en train de s'éclater et tout ça, quoi.
Oui, mais enfin, c'est un peu une œuvre noire, un peu comme de la carte à gratter. Dans le noir, on trace des traits, puis finalement, il y a quelque chose qui apparaît.
Ah oui, mais quoi, justement
noir.
Il y a eu des tentatives comme ça dans les années 70, de sorte de communauté, tout ça, et ça s'est souvent en terminant catastrophe. Et c'est la question pourquoi, c'est toujours la racine du problème. Est-ce que finalement on a des espèces de mécanismes profonds, enfouis très profondément en chaque individu, qui dès qu'on se met en collectivité, ça commence à déraper, parce qu'on est confronté d'un seul coup à d'autres systèmes de pensée, qu'on est obligé de s'adapter, de s'enfermer soi-même, et donc du coup l'utopie, d'ailleurs souvent on a eu des thèmes utopie ici, et souvent l'utopie est un échec, c'est souvent quelque chose de totalitaire, parce que à un moment c'est tout le monde doit être heureux, or c'est absolument impossible.
Alors est-ce qu'on peut évoquer un tout petit peu Aldous Huxley, puisque finalement c'est lui qui d'une certaine manière réinvente d'une façon quasi contemporaine le meilleur des mondes. Aldous Huxley, quand on le lit, c'est catastrophique. Enfin, je veux dire, ça se termine très mal. Et tout est très mal. Ce qui est intéressant, c'est qu'il convoque deux auteurs. Il l'explique après ça. Hein. Il convoque Voltaire, le meilleur des mondes possible de Candide. Mm. Ce qui est pas mal parce que ça se termine par cultiver son jardin. Oui. Et donc on revient à l'individu pour fuir l'ennui, le besoin, et puis que sais-je encore. Enfin le sentiment d'injustice, enfin bon. Et puis il convoque aussi Shakespeare, qui vous intéresse particulièrement. We are made of stuff of our dreams. Nous sommes faits de l'étoffe de nos rêves, n'est-ce pas? Donc voilà, il en vient au fond à l'individu. Et même si ça se termine catastrophiquement, cette histoire, l'individu chemine et lui, il a toute une série tout le temps d'aspects positifs, même s'il va se détruire à la fin, quoi. Est-ce que ça vous inspire quelque chose, Francis Berthelot?
Oui, moi, je pense toujours à cette phrase, le sauvage lisait Roméo et Juliette. Et c'est vrai que moi, ce que je ressens, et c'est pour ça que je ne peux pas être dogmatique, moi, je n'arrive à mener ma vie dans le bonheur qu'en procédant à un repli schizophrénique par rapport à la réalité. C'est-à-dire que je n'arrive à survivre et à avancer et à créer, etc., qu'en mettant entre le monde réel et moi une paroi de verre qui m'entoure. Mais je sais très bien qu'à tout instant, il peut surgir quelque chose de l'extérieur, la réalité qui va revenir et dont je me défends de toutes mes forces, peut forcer ma barrière. et me renvoyer en enfer, puisque dehors, c'est l'enfer.
Donc
je ne peux pas dogmatiser, je ne peux pas dire aux autres, faites comme moi.
D'accord. Vous partagez un peu le point de vue de Sartre, du coup. Là. Les autres, c'est... Enfin, contribuent à cet enfer.
Oui, parce que de toute façon, si vous voulez, moi, revenons à la biologie moléculaire. En biologie moléculaire, il y a quelque chose, un concept qui est très simple, c'est le concept de compétition entre deux molécules pour s'approprier un site sur une troisième ou sur une particule. Déjà, au niveau moléculaire, la notion de compétition existe. Alors, au niveau animal, au niveau végétal, elles existent. Au niveau humain, elles existent aussi. Donc forcément, dès qu'on met des gens ensemble, ils vont être en compétition pour n'importe quoi. Pour avoir la parole, pour être plus beau que l'autre, pour manger plus, pour faire ceci. Le conflit est intrinsèque à la vie. Donc c'est insoluble.
La vie est brutale, la vie est de compétition et la vie est mortelle. Enfin, elle s'achève.
En plus, oui, on sait que de toute façon, à la fin, on perd.
Alors, donc
c'est mal barré.
C'est mal barré.
Mais, comme disait Camus, avançons quand même.
Oui, mais c'est ce qui explique probablement le fait que nous soyons capables d'inventer quelque chose d'antalgique qui nous... au fond, c'est le désir absolu. Et le désir, c'est le regret de l'absence en philosophie, n'est-ce pas, docteur? C'est ça. Au fond, nous avons inventé ce qui nous manque.
Le désir, c'est ce qui nous permet d'avancer. C'est, en clair, le désir, c'est avoir envie. En deux mots ou en un mot. C'est-à-dire, sans désir, on n'est pas en vie. Hein ? Moi, je voudrais juste revenir sur l'interaction entre l'individu et la société. Je me permets de revenir là-dessus parce que c'est un peu l'intervention de Pierre Bordage en parlant de la dépression des riches. Je veux dire, je crois qu'aujourd'hui, la dépression, elle provient aussi du fait qu'on est dans un système où on est le système du toujours plus. Plus vite, plus loin, toujours plus, toujours consommer plus. Et donc, c'est ce qui va créer aussi de nouvelles pathologies, c'est-à-dire finalement des pathologies du trop-plein. Et donc, ces dépressions de riches ou ces dépressions aujourd'hui viennent du fait qu'il n'y a pas assez de manque. C'est-à-dire qu'on a besoin. Quand mon voisin évoque le recul par rapport à l'agression du réel, il recherche l'absence, il recherche le manque, il recherche le vide. Et aujourd'hui, on est confronté à un trop-plein. On a trop de choses qui sont dans l'actualité, dans le présent. On est assommé de trop d'informations, assommé de trop d'éléments qui ne nous permettent pas finalement de rechercher en nous ce désir que vous évoquez. C'est-à-dire qu'on est à la recherche du manque et d'une certaine façon, quand vous évoquez la dépression, moi j'ai une unité, je suis responsable d'une unité de jeunes suicidants, et ces jeunes qui se suicident, c'est qu'ils sont à la recherche aussi de bouffées d'oxygène, ils sont à la recherche de ce manque-là. Ils n'en peuvent plus de ce trop-plein. Et donc, ce qu'il y a d'intéressant dans un festival comme celui-là au niveau de la science-fiction, c'est qu'on est dans l'imaginaire, on est dans le rêve, et on est dans ce quelque chose qui n'est pas aujourd'hui trop sur la scène du présent. On est sur quelque chose qui est sur la scène du rêve, donc quelque chose qui est en devenir et qui peut aussi nous laisser l'espoir de se réaliser soi-même, et pas le désespoir de finalement d'être confronté au mur du présent, du trop-plein. Disons, je suis étouffé par trop de présent.
À vous écouter, j'ai l'impression que les uns et les autres, que c'est un exercice d'équilibriste, tout ça. Comment vous réagissez, vous, Vincent Ravalac, à ce que vient de dire le médecin ?
Bah, je ne sais pas trop, en fait, parce que je pense que c'est vrai pour certaines personnes, ce n'est pas vrai pour d'autres. Je crois que c'est assez difficile là, de généraliser. Je pense que vous avez raison d'un point de vue global du fonctionnement social aujourd'hui. Après, qu'on soit dans une logique du trop-plein et donc dans une espèce de manque inassouvi, je crois que ça dépend aussi un peu du sens qu'on donne à sa vie, de la manière dont on invente. Ce mot va peut-être paraître un peu curieux, mais de la discipline aussi qu'on suit. Je pense qu'il est possible. Je pense que le monde nous propose aujourd'hui de multiples choses, mine de rien, et que ces choses, c'est à nous d'essayer de les cultiver ou pas. Si on en est capable. Là, je m'excuse de faire référence à mon propre itinéraire, mais c'est évidemment toujours celui qu'on connaît le mieux. Moi, je sais que j'ai eu de grosses difficultés existentielles et qu'en travaillant sur moi, c'est des choses que j'ai pu progresser par rapport à ça. J'ai pu arriver à le mettre en forme différemment, à l'expérimenter différemment, et notamment grâce au pouvoir créatif que j'avais à un moment donné. Et je continue d'ailleurs à le faire. Et je pense que s'il n'y a pas un effort constant de remise en forme du monde et de renégociation avec le monde en permanence, et avec le monde, mais aussi avec ce qui est à l'intérieur de nous, et avec justement ce dont parlait Francis, c'est-à-dire tout ce dont on est tissé, c'est cette sauvagerie interne qui nous constitue, et qui, a priori, si on est aujourd'hui dans un système d'êtres humains civilisés, c'est aussi qu'on a réussi à négocier au moins un minimum avec ses pulsions, avec, je crois que c'est un petit peu ce que Freud appelle le ça, non ? Ce qui est un peu ces sources vives pulsionnelles qui nous habitent, et qui nous habitent vraisemblablement à un niveau beaucoup plus archaïque et beaucoup plus profond que nos structures mentales. Je crois qu'on a la capacité tout de même de prendre ça en main et d'essayer de l'orienter un petit peu, non ?
Au fond, vous avez cultivé votre jardin, vous.
Bah, écoutez, en tout cas, j'ai essayé de le faire. Et je pense que c'est ce que j'essaye de faire dans mes livres, de le faire. Et d'ailleurs, mes livres sont d'abord pour moi et éventuellement pour les autres. Mais
Je voudrais dire deux choses. Quand j'étais jeune, comme je voyais mon papa qui lisait le journal tous les jours, je me suis dit, bon, il faut quand même, maintenant que je suis à peu près un adulte, je vais m'abonner à un journal. Alors, il y avait un journal à l'époque qui s'appelait Libération. C'était merveilleux, Libération, ça va vous libérer, c'était formidable. Je me suis abonné pendant un an. Et pendant un an, tous les matins, je recevais ce journal qui ne m'annonçait que des mauvaises nouvelles. Que des catastrophes. Donc, je lisais ça pendant une heure et j'étais déprimé pour le restant de la journée. Je n'ai pas renouvelé mon abonnement. Et le deuxième point, je prends l'exemple tout à fait hypothétique d'un homme de petite taille politicien qui se hisse au plus haut niveau du
l'État.
Pouvoir de l'État, voilà, qui devient donc président d'un pays important, qui a pour épouse un ancien mannequin devenu chanteuse, qui a des Rolex, qui a tout. Est-ce que cet homme est heureux ? On peut se demander. Si ça se trouve, il ne l'est même pas.
Affirmer qu'il ne l'est pas.
Bon, Francis Berthelot, vous avez aussi cultivé votre jardin, au fond.
Ah, moi, je cultive mon jardin, oui, tout à fait. Oui,
de toute façon, nolens volens, ça ne mange pas de pain, ça ne fait pas de mal de faire ça.
Bah, ça dépend comment on le fait, mais moi, le mien, j'essaie qu'il ne fasse pas trop de mal. Voilà. Voilà.
Je vais encore être un peu provocateur, je pense. Mais finalement, est-ce qu'on a besoin des mondes meilleurs ? Est-ce qu'on a besoin de chercher un monde meilleur ? Est-ce que cette espèce de poursuite de la chimère, c'est pas ça qui nous entraîne à l'échec systématiquement ? Est-ce qu'on ne devrait pas simplement dire notre monde, c'est le monde meilleur ? C'est-à-dire être capable d'appréhender le réel sous toutes ses formes, ce qui souvent n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'on cherche toujours à se décaler vers un futur hypothétique meilleur, et c'est là que germe la souffrance. Donc, est-ce que simplement il ne faut pas s'arrêter un moment, dire on sait très bien que la pensée matérialiste ou le matérialisme ne va pas donner le bonheur et va toujours, au contraire, emmener vers plus et plus. Donc est-ce qu'on ne peut pas s'arrêter simplement, dire regardons le monde tel qu'il est, mettons tout à plat et simplement apprenons-nous à nous connaître avec sa dimension sauvage, avec sa dimension rêveuse, avec tout ça, et donc de déclarer là maintenant solennellement que le monde meilleur est présent, est en nous.
Est en nous. Ouais. C'est la morale du Candide de Voltaire. Hein. Le meilleur des mondes possibles, il est dans la vie que vit le jeune héros au départ. Il descend aux enfers.
C'est plus un travail d'acceptation que de volonté de changement, je pense.
Et vous aussi, vous cultivez votre jardin.
En tant qu'auteur,
ça vous aide bien.
Ouais, et puis j'essaye aussi. Avec parfois quelques difficultés à essayer de comprendre qui je suis.
Oui, c'est peut-être ça le plus difficile. Docteur, votre conclusion à vous, c'est vous aider les gens finalement à retrouver ce jardin qu'ils n'auraient pas dû perdre et trouver les moyens de le cultiver eux aussi à leur tour, ou c'est autre chose encore ?
Si, moi, si vous voulez, disons, je dirais simplement, pour utiliser une... c'est pareil, c'est... C'est une phrase de Winnicott, c'est en fait je suis une béquille, c'est-à-dire un moi auxiliaire, c'est-à-dire j'aide les patients qui viennent me voir à finalement être à la recherche, être en quête d'eux-mêmes. Vous savez, je dirais que peut-être tout simplement, pour nous qui sommes dans la salle et finalement qui n'allons pas si mal que ça, pour essayer de chercher le bonheur, il suffit peut-être de relire tout simplement Sénèque. Sénèque qui dit « la vie apaisée, la vieillesse heureuse ». Aujourd'hui, c'est pour ça que tout à l'heure j'évoquais cette société d'où toujours plus. Et quand vous évoquiez ce président de la République qui est en quête de Rolex, de nouvelles femmes ou de nouveaux défis, c'est-à-dire il n'est pas apaisé. C'est-à-dire retrouver un peu la paix intérieure. C'est ce que j'essaye de faire avec mes patients qui sont effectivement en proie avec leur enfer, comme mon voisin a pu l'être, et de pouvoir finalement trouver en eux cette capacité à retrouver cette paix intérieure qu'ils ont perdue à un moment donné liée à des événements.
Voilà, ce jardin, il est paisible au fond.
Oui.
Bien, alors, si vous avez des questions à poser, nous avons encore quelques petites minutes pour le faire. Il suffit qu'on vous tende un micro. Questions brèves, si possible. Et...
J'aurais des remarques.
Ah oui, alors attendez, parce qu'on ne part pas pour une grande déclaration. J'ai quelques minutes à saupoutrer dans une salle. S'il vous plaît, soyez bref. Et je serai impitoyable, si vous voyez ce que je veux dire.
Assez bref. je tenais quand même à signaler la possibilité de baser sa recherche du bonheur. Il y a deux manières de la concevoir. La recherche du toujours plus, de la prédation qui domine actuellement, qui est le moteur de notre président en particulier, mais de la majorité des gens, et au contraire l'acceptation du monde, la construction. J'ai entendu le mot construction, j'ai entendu d'autres mots que je n'ai plus en tête chez Vincent Ravalec, qui, eux, peuvent mener au bonheur. Mais la construction, et une chose que je voulais dire là pour contrer Pierre Bordage, c'est que c'est pas dans la société que se pose le problème. C'est dans une société où chacun cherche à prendre le plus possible. Là, on arrive à l'échec, mais une société où chacun accepte le voisin et essaie de construire,
c'est
pas le mot société qui est en cause.
D'accord, merci beaucoup. Une question ici. Alors, c'est un point de vue, donc on va pas... Voilà, hein, merci beaucoup.
Ici, des mondes meilleurs, on a dérivé en fait vers simplement la recherche du bonheur. Et je me demandais si en fait la réponse n'était pas simplement ce que disait madame, le fait de trouver... Bon, individuellement, c'est un travail à faire sur soi, sa place, mais au sein de la société, que ça soit en aidant justement les autres en tant que médecin ou en créant, mais pour être lu, pour être regardé, pour être écouté par les autres, en fait.
La notion de construction, décidément.
Voilà.
C'est ça. Merci. Autre remarque ou réflexion ?
Moi, je répondrais juste, au niveau de la construction, oui, bien entendu, c'est dans le regard de l'autre qu'on se construit. C'est ce que j'ai dit. Effectivement, le premier regard, bien sûr, c'est le regard maternel. Et la suite, dans un parcours de vie, c'est toujours ce regard-là. C'est-à-dire dans lequel on se reflète, le regard de l'être aimé, qui sont successivement, qui peuvent être différentes personnes.
Vous avez évoqué au départ un poète géorgien, et vous avez évoqué à la fin Winnicott. Au fond, ils disent la même chose l'un et l'autre. C'est un objet transactionnel qu'il faut trouver.
C'est très bien.
C'est ça.
Très bien, c'est très bien, monsieur l'animateur. C'est
l'objet étant l'homme ou la personne.
Voilà. L'objet étant, pouvant être aussi aujourd'hui, quelquefois, le portable.
Oui. Ma foi, et les nouvelles technologies sous-jacentes. Autre question, autre réflexion. Monsieur, on vous apporte le micro. À vous.
En écoutant Francis Berthelot et surtout Vincent Ravalec, qui apparemment ont connu un enfer, je ne sais pas si Pierre Bordage l'a connu, mais ne faut-il pas avoir connu un enfer pour pouvoir construire un monde meilleur en nous ?
Alors, de ce point de vue-là, le XXe siècle nous a été pas mal, hein, puisque vous l'avez évoqué, Francis Berthelot.
De toute façon, tout le monde connaît un enfer à un moment ou un autre de sa vie. Hein. Donc, la question ne se pose pas.
La question ne se pose même pas. On ne peut pas l'éviter.
On ne peut pas l'éviter.
On l'a.
On a même plusieurs. Enfin,
on l'a en nous. Voilà.
Moi, je dirais que le premier enfer, c'est la crise d'adolescence. Cette crise d'adolescence qui n'est pas, disons, finalement, si on demandait à l'ensemble des participants s'ils ont un bon souvenir de leur adolescence, on serait surpris de constater que la plupart ont un souvenir. Voilà, bien sûr. Moi, la première aussi. Mais ce que je veux dire, c'est la capacité aussi à surmonter les événements, notamment les crises. Des crises, comme si j'ai parlé de la crise d'adolescence, c'est bien parce que c'est une crise normale.
Hein. Oui. Vous avez évoqué tout à l'heure la dépendance au regard. Or, on peut connaître un enfer dans la première minute de sa naissance si on a un regard de haine ou d'indifférence, de colère porté sur soi. Donc, ça fait dépendre de l'autre une responsabilité énorme. Ça voudrait dire que la personne n'est plus capable de s'en sortir puisqu'on n'a pas porté le regard sur elle. Donc, là, il y a une petite difficulté à résoudre. Et je pense que... Est-ce que le monde meilleur est en soi ? C'est que probablement chaque être humain a en soi la capacité de surmonter tous ses problèmes. C'est la vertu de l'épreuve, finalement.
La résilience dont parlait Rachel Bochet tout à l'heure.
L'épreuve, quoi. C'est-à-dire l'enfer, si c'est l'épreuve. Oui, alors on a tous des successions d'épreuves à surmonter et c'est ça qui peut-être fait grandir. Mais c'est tous en soi qu'on a les ressources, je pense.
La résilience est un concept intéressant. C'est la faculté de revenir à la configuration d'origine native.
C'est le mot est nouveau, mais le concept est ancien.
Le concept est ancien.
Bien sûr.
Et on parle de la résilience d'un certain nombre de matériaux. Mmh. Et le matériau humain est un sacré matériau solide au bout du compte.
Très résistant. Voilà. Très résistant.
Autre question ou autre réflexion ? Il suffit de lever la main, on va vous apporter un micro. Non ? Très bien. Alors, un tout petit mot de conclusion. S'il y a... Non, pardonnez-moi, j'ai pas vu de main se lever. Si, au fond, pardonnez-moi. Voilà. C'est bien, merci d'avoir agité plus vivement. Voilà, à vous.
Bonjour.
Bonjour.
Je pensais que la recherche du bonheur commençait par la recherche de la vérité.
Ah.
Alors là, moi, je crois pas du tout, parce que justement, dès que les gens détiennent la vérité, ils veulent l'imposer aux autres. Alors, il n'y a rien de pire que la vérité, à mon avis.
Finalement,
se méfier de la vérité.
Francis Berthelot, vous avez une réponse toute trouvée. En philosophie, le bonheur, c'est le silence du malheur. Le silence du malheur.
Très jolie formule, oui.
Sauf que vous nous avez expliqué que le malheur, il ne fait jamais silence. Ou rarement. En tous les cas, pas tout le temps. Donc voilà.
Est-ce que la question n'était pas sa vérité ? Ou non pas la vérité, parce que la vérité, ça n'existe pas, mais sa propre vérité. Ouais.
Ouais.
Là, je pense que chaque... Alors là, on échappe totalement à la prison de pensée et on est dans et au dogmatisme, puisque sa vérité n'est jamais pareille à celle de l'autre.
Alors au fond, on est en train de revenir à des grands penseurs, à des pensées de très anciens. Connais-toi toi-même. Hein, Pierre l'a dit d'une certaine manière pour sa propre conclusion. Et puis cultivons notre jardin. Décidément, Voltaire nous est d'une grande utilité ce soir. Ça vous convient, madame, messieurs, comme conclusion ?
Oui,
merci. On vous applaudit, s'il vous plaît.
Merci beaucoup.
Merci.